Session de théologie par le Père Philippe, le 27 août 1991.
Nous allons continuer de regarder la manière dont nous est présentée cette première faute au point de départ de l'humanité. J'ai souligné que ce n'était pas la première, et Saint Jean souligne dans son prologue que la création de l'homme et de la femme ne s'est pas fait dans la paix universelle, mais au milieu des ténèbres. Autrement dit, il y avait déjà des fautes d'orgueil quand Dieu a créé l'homme et la femme. Ce qui est très important, du reste, pour bien comprendre le mystère de la création, c'est un des mystères sur lequel, de fait, on doit être très attentif aujourd'hui. C'est un mystère qui nous dépasse tous. Et d'autre part, c'est un mystère que le philosophe peut atteindre et doit même atteindre. Je dis bien l'homme avec son intelligence. Comme l'homme peut découvrir l'existence de Dieu, ayant découvert l'existence d'un être premier, d'un esprit premier, source de tout amour et de toute intelligence, de toute contemplation. Le philosophe peut comparer, après avoir découvert cet être premier que les traditions religieuses appellent Dieu, comparer ce Dieu et lui-même dans son existence. Ce que je suis, comparativement à cet être premier. Et le problème de la création se pose dans cette recherche de relation, de dépendance qui existe entre mon existé et l'existé de l'être premier. Ce n'est pas un problème qui est au-delà de la recherche intellectuelle. Pour saint Thomas, le seul point que l'intelligence humaine ne peut pas déterminer, c'est que Dieu a créé dans le temps. C'est intéressant, du reste, à bien préciser. Donc, si Dieu a réalisé la création des anges, ça, je ne peux le dire que dans la foi. Parce que l'existence des anges, je ne peux pas en parler au plan philosophique. C'est pour ça que je ne peux pas parler de l'existence du démon au plan philosophique. Au plan philosophique, je ne peux parler que du mal. Et je dois en parler. Mais je ne peux pas parler de l'existence du démon. Seule la foi. Donc, si, au point de vue de la foi, je parle de la création des anges, cette création des anges s'est faite dans une paix, une lumière, un amour parfait. Tout venait de Dieu, directement. Les anges sont des êtres spirituels, non matériels. Tout venait directement de Dieu. Ils agréent dans la paix. tandis que la création de notre univers, je ne sais pas comment Dieu l'a créé. Et on ne saura jamais, parce que les savants ne peuvent donner que des théories, qui sont des théories intéressantes, mais ils ne peuvent pas savoir. Dans 10 ans, il y en aura une autre. Parce que ça change. De fait, le comment de la création, on ne peut pas le savoir. On peut émettre des hypothèses. Ce sont des hypothèses. Le philosophe ne peut rien dire sur le comment de la création. Je veux dire, la création a existé. Et la création existe, puisque mon âme est créée directement par Dieu. Et donc, si elle est créée directement par Dieu, elle est actuellement créée par Dieu. Pour pouvoir arriver à comprendre ça, intellectuellement. Et si on ne peut pas intellectuellement, dans la foi. Dans la foi, je peux affirmer, je dois affirmer, que mon âme est créée immédiatement par Dieu. Pas d'intermédiaire. Et l'acte créateur du côté de Dieu est éternel. Donc il est actuel, puisqu'il est éternel. Il est au-delà de la succession du temps. Si j'ai été créé, si mon âme a été créée à tel moment, ce qui est juste, je ne sais pas exactement, je ne pourrais pas préciser exactement, ça reste un problème très délicat de savoir à quel moment Dieu a créé l'âme. Là aussi, je crois que c'est dans les catacombes biologiques, dans le sein maternel. C'est du reste très beau. Mais on ne peut pas savoir si la conception biologique et la conception humaine est simultanée. Le professeur Lejeune dit qu'elles sont simultanées, mais il le dit au nom de quoi? Le biologiste ne peut pas atteindre l'âme. Il le sait. La science biologique ne peut pas atteindre l'âme. Elle atteint le vivant. Cet être vivant qui est l'homme. Elle ne peut pas atteindre l'âme. Vous savez, cette chose très curieuse, c'est Jean Bernard qui raconte ça. Jean Bernard faisant un petit cours de biologie dans son lieu natal, alors parle, point de vue biologique, et purement biologique, et dit à ses petits-enfants, puisque c'était l'instituteur du lieu qu'il avait invité, et qui était très heureux de l'inviter. Il avait devant lui des petites élèves et des petits élèves de 10 ans, 12 ans. Ça avait été charmant de l'entendre expliquer comment se forme le petit poussin, comment se forme l'embryon humain. Il avait dit, si vous avez des questions, envoyez-les-moi. Écrivez-les-moi. Comme je vous dis, si vous avez des questions, écrivez-les. Alors il m'a dit, j'ai reçu un petit mot écrit magnifiquement, comme un enfant qui apprend à écrire, alors qu'il écrit comme jamais dans sa vie, elle n'écrira encore comme ça. On le sait bien, parce qu'on veut écrire plus vite. Et cette petite avait envoyé ce mot, et l'âme, signée Brigitte. Parce qu'il n'avait pas dit un seul mot sur l'âme dans sa science biologique. Il regarde le développement. Le développement de l'être biologique. Il ne peut pas atteindre l'âme. Il dit des choses extrêmement intéressantes, c'est bien évident. Tout le développement de l'embryon tel qu'on le connaît aujourd'hui, au point de vue science biologique, c'est palpitant, c'est merveilleux. Mais le biologiste comme tel n'atteint pas là. De sorte que beaucoup de philosophes d'aujourd'hui disent « l'âme n'est plus sur le marché philosophique ». J'ai entendu dire ça par des philosophes chrétiens qui m'avaient demandé, tu vois, c'était un petit groupe, mais ils m'avaient dit « vous ne pourriez pas nous exposer ce que c'est que l'âme ?» J'avais dit oui. Ils avaient écouté avec beaucoup d'attention pendant une heure. Puis après, ils ont dit c'est merveilleux tout ça, mais on ne peut plus, nous, jeunes philosophes, en parler. Parce que l'âme n'est plus sur le marché philosophique. Alors je dis, est-ce que vous produisez des produits qui doivent être vendables, commerciables, ou est-ce que vous cherchez la vérité? Là, ils m'ont pas répondu. Et c'était de jeunes philosophes théologiens. On ne peut plus parler de l'âme. Le biologiste ne peut pas en parler. Alors le jeune parle du chiffre biologique. Mais le chiffre biologique ne manifeste pas la présence de l'âme au sens strict d'une âme spirituelle. Parce que l'âme humaine est une âme spirituelle. Donc il faut être très attentif. Il ne faut pas faire une mauvaise apologétique. Hein. Au début du siècle, on a fait une mauvaise apologétique. Il y avait beaucoup plus de mal que de bien. Et on a une tentation énorme aujourd'hui à faire une mauvaise apologétique, encore. On voudrait tellement que la science puisse atteindre Dieu. C'est vieux ça, vous savez, c'est vieux, c'est pas nouveau. On voudrait tellement que la science puisse parler de la création, le Big Bang. On voudrait tellement. Alors on pousse. Et les vrais savants disent ah non. L'apologétique, c'est de la rhétorique. C'est très agréable entre croyants. Et c'est très désagréable entre savants. À la place de les convertir, on leur fait du mal. Il faut montrer les limites de la science. Ce que la science peut dire et ce que la science ne peut pas dire. Et constamment, il faut demander ça aux mathématiciens. Puisque presque toutes les sciences aujourd'hui utilisent les mathématiques. Et le mathématicien, lui, est farouche là-dessus. Quand il voit qu'on utilise les mathématiques d'une manière qui n'est pas juste. Je disais à ce mathématicien que je connais bien et qui est très au courant de tous ces problèmes, Aristote parlait des sophistes comme se revêtant du manteau du philosophe. Les sophistes, ce sont des apologètes, bons ou mauvais. C'est de la rhétorique. Et alors Aristote disait, les sophistes, ils se revêtent du manteau du philosophe. Alors je lui disais, je crois qu'il serait bon de dire que beaucoup de savants aujourd'hui se revêtent du manteau du mathématicien. Mais ce n'est plus du tout la science. Et le croyant, le philosophe, doit être très attentif. Très attentif pour ne pas faire une nouvelle gnose. Parce que tout est prêt pour une nouvelle gnose, qui serait une rhétorique et qui, à la place de nous mener à la vérité, nous conduirait dans des images, dans une nouvelle idéologie imaginative. Alors, comprenons bien que la création des anges c'est fait dans la sagesse de Dieu et d'une manière contemplative. La création est l'œuvre de la sagesse contemplative de Dieu. créant contemple. Et c'est une œuvre artistique, étonnante. Je crois qu'il faut contemplation et art. Du reste, l'Écriture nous y invite. Hein. Dieu façonna le corps de l'homme. Il façonna l'univers, comme le potier. Donc il prend des gestes qui sont des gestes d'artistes. C'est très curieux. Quand il s'agit de la création de l'homme, Dieu l'a communiqué aux anges, selon saint Augustin, selon une grande tradition chrétienne. Saint Thomas l'a repris. Et certains anges ont fusé. À ce moment-là, il y a eu cette guerre dans le ciel. Et malgré le refus des anges, de certains anges, Dieu a maintenu sa volonté de créateur, de créer son chef-d'œuvre. Un univers physique. Dieu a maintenu sa volonté de créateur malgré son refus. Je crois que ceci, c'est très grand. Nous, quand nous sommes en face de certains qui refusent de coopérer aux projets, aux intentions qu'on s'est faites, on dit, si c'est ça, je m'arrête. Pas la peine de continuer. Dieu aurait pu faire ça. Dieu n'a pas fait ça. Ceci montre la magnanimité du Dieu créateur par rapport à l'homme, par rapport à la femme. J'allais dire, il y a une double générosité. Pour les anges, c'est déjà une générosité, une magnanimité extraordinaire. Par pure gratuité, Dieu a créé. Dieu n'était absolument pas obligé de créer. Par pure gratuité d'amour. Et quand il s'agit de la création de notre monde physique et de son chef-d'œuvre, l'homme et la femme, il y a une double gratuité. Parce que, malgré le refus de certains anges qui n'étaient pas les plus bêtes, si j'ose dire, Dieu a continué son œuvre dans une gratuité absolue et dans un amour. Donc, il a créé l'homme et la femme quand il y avait déjà les ténèbres de l'orgueil chez les mauvais anges. Et Dieu le savait. Et c'est pour cela qu'apparaît tout de suite le serpent. Le serpent s'intéresse à l'homme et à la femme. Pourquoi ? Parce que c'est à cause de l'homme et de la femme qu'il s'est fait l'adversaire de Dieu. Il a refusé de regarder l'homme et la femme comme chef-d'œuvre de Dieu. Et donc, il n'a qu'un seul désir, c'est que l'homme et la femme montrent leur indignité d'être chef-d'œuvre de Dieu, leur incapacité de tenir cette place, d'être chef-d'œuvre de Dieu. Il n'a que ce désir-là pour rendre à Dieu, j'allais dire l'appareil, montrer à Dieu que c'était de la folie de créer son chef-d'œuvre à partir de la matière, et donc de créer son chef-d'œuvre avec une qualité, une noblesse spirituelle moindre que celle des anges, mais une capacité plus grande d'aimer. C'est ça qui est extraordinaire. Le chef-d'œuvre de Dieu au point de vue de la création, ce n'est pas du côté de l'intelligence, c'est du côté de l'amour. Il a voulu unir dans sa sagesse l'esprit et la matière pour pouvoir communiquer à sa créature quelque chose qu'il ne pouvait pas communiquer aux anges qui sont de pur esprit. Qu'est-ce qu'il a pu communiquer en plus aux anges, à l'homme et à la femme? C'est intéressant pour connaître la jalousie du serpent. Qu'est-ce qu'il a communiqué de plus? Les anges ne peuvent pas être source de vie. Le mystère de la procréation n'existe pas chez les anges et ne peut pas exister. Un pur esprit ne peut pas être père et mère. Il a voulu que les petits derniers, les petits benjamins, nous puissions être père et mère, source de vie. C'est quand même extraordinaire, ça. Que Dieu ait voulu que des créatures puissent partager avec lui paternité et la maternité. On oublie trop ça. Et c'est pourtant tellement important pour comprendre la lutte actuelle à propos de la fécondité. Si on ne voit pas ça, on ne comprend pas. On ne voit pas que c'est le premier atout, ça. Dieu a voulu créer l'homme et la femme pour qu'ils puissent être source de vie et communiquer la vie à des êtres nouveaux en coopération avec Dieu. Puisque dans la procréation, les parents prennent l'initiative et Dieu répond à cette initiative puisque Dieu crée l'âme dans le petit embryon. Après la conception biologique. C'est grand, ça. C'est magnifique de voir ça. Que tu as voulu ça. Tu as voulu que l'homme et la femme puissent s'aimer d'un amour d'amitié. L'amour d'amitié, la philia grecque, n'existe pas dans le monde des anges. Il n'y a pas d'amitié chez les démons. Impossible. Il y a des rivalités constantes. Je crois qu'au point de vue politique, ça ne se passe pas très bien. Parce que c'est l'anarchie complète. Dans les anges, il n'y a pas d'amour d'amitié naturel. Les anges sont des ermites seuls. Seuls. Ils aiment Dieu follement. Ils s'aiment parce qu'ils aiment Dieu. Mais il n'y a pas d'amour d'amitié comme pour nous. Nous pouvons nous aimer, nous. On peut se rencontrer. Entre l'homme et la femme, il y a une véritable amitié. Entre des amis, il peut y avoir une véritable amitié humaine. Et sur cette amitié humaine va se greffer le mystère de la charité fraternelle. Chez les anges, il y a une charité fraternelle, mais qui n'a pas de fondement naturel. C'est curieux. Mais il faut voir tout ça pour qu'on comprenne cette première tentation. Si on ne voit pas ça, on ne comprend pas. Il faut toute la théologie pour comprendre cette première tentation. C'est pour ça que j'ai dit que c'est théologie mystique. Il faut toute la théologie pour avoir, vis-à-vis de ce texte, un regard qui soit le plus proche possible du regard de l'Esprit Saint, puisque l'Esprit Saint est l'auteur principal de l'Écriture. Nous disons ça tous les dimanches, à la messe, dans notre credo. Mais on n'en vit pas beaucoup. On est beaucoup plus intéressé. D'où vient cela ? Aux sources historiques qu'à l'Esprit Saint. Alors l'Esprit Saint est l'auteur principal de toute l'Écriture. Et c'est pour ça que saint Augustin insiste tellement sur l'unité de l'Écriture. Parce qu'il y a un seul auteur principal. Et il y a des quantités de petites flûtes. Il y a des quantités de grosses caisses. Il y a des quantités de violons. Il y a des quantités d'instruments. Ça, c'est sûr. Mais il y a un auteur principal qui se sert de tous ces instruments au cours des temps. À travers 2000 ans, ou à travers 1000 ans, 1500 ans, peu importe, ça n'a pas grande importance, c'est secondaire. Ce qui est important, c'est de voir que l'Esprit Saint est l'auteur principal, et qui se sert de tradition, et qui se sert de la parole des hommes, qui se sert d'instruments, les prophètes. Les historiens, ils se servent de tout cela pour nous révéler le regard de Dieu sur l'homme, pour nous révéler le regard de Dieu sur lui. C'est ça qui est important. Alors, comprenons que l'homme a sur l'ange ce privilège. Il peut devenir auteur de vie. Il y a l'amour d'amitié. Troisièmement, l'art. Dominer l'univers. L'homme peut travailler la matière. Réaliser des chefs-d'œuvre, plus ou moins beaux. Et Dieu n'a pas voulu que l'univers soit le plus parfait qu'il puisse exister, par délicatesse pour l'homme, pour que l'homme puisse l'achever, le compléter. La parole de Dante, qui est si forte, l'œuvre d'art est petite fille de Dieu, petite fille du Créateur. Je crois qu'il y a là trois grandes qualités de l'homme que le démon regarde avec une attention très étonnante. Il ne sait pas. Et c'est là qu'il faut comprendre la curiosité du démon qui interroge la femme. Alors Dieu a dit, vous ne mangerez d'aucun arbre du jardin. La femme dit au serpent, nous pouvons manger du fruit des arbres du jardin. Elle en a déjà mangé. Mais du fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez pas, vous n'y toucherez pas, sinon vous mourrez. Ève livre au serpent le secret qui unit cette petite communauté humaine, cette première communauté humaine, unie dans un amour de charité divine et d'amitié. Il y a ce secret. Il y a le commandement de Dieu, la défense de Dieu. Vous ne mangerez pas. Là, on peut se demander pourquoi tu as fait ça. Pourquoi Dieu a-t-il mis un précepte négatif ? Parce que Dieu est le Père de l'homme et de la femme. Parce que Dieu réalise son chef-d'œuvre dans l'homme et la femme, en sachant la fragilité. Plus le chef-d'œuvre est grand, plus il est fragile, vous savez bien. Il n'y a que les grosses caisses qui ne sont pas très fragiles. Mais dès qu'on a quelque chose, une certaine splendeur, une certaine beauté, alors ça connaît une très grande fragilité. Et Dieu veille sur l'homme et la femme. Et pour bien montrer qu'il veille, il réclame l'obéissance. L'amour divin ne peut s'incarner en nous qu'à travers l'obéissance. Et Dieu a tout de suite demandé l'obéissance. C'est dans un précepte négatif que l'obéissance se manifeste le plus. Vous le savez très bien. Parce que c'est pas commode d'obéir à un précepte négatif. Il faut beaucoup d'amour. Il faut accepter que la chose qu'on ne fait pas soit offerte à Dieu par amour. Et donc, il faut qu'on aime plus Dieu que l'œuvre qu'on pourrait faire en n'écoutant pas ce précepte négatif. Et cela, c'est Dieu qui sonde les reins et les cœurs constamment dans notre vie. C'est comme ça que Dieu veut que nous nous manifestions à nous-mêmes que l'amour que nous avons pour Dieu est plus grand que l'amour que nous avons pour nous. Alors c'est ça que Dieu veut éduquer en nous. C'est que notre amour pour Dieu dépasse l'amour que nous avons pour nous. Nous avons un amour naturel pour nous. Et c'est bien d'avoir cet amour naturel pour soi. C'est pas mauvais. Mais Dieu veut qu'il y ait un amour plus grand pour lui que pour nous. Alors comment cet amour va se manifester à nous-mêmes ? Sommes-nous capables d'accepter un précepte négatif ? Oui, cette mère qui me disait « Mon fils est très obéissant chaque fois que je lui obéis. » C'est-à-dire que je lui donne tout ce qu'il me demande. Et quand je commence à dire « Ah non, tu peux pas faire ça !» Ou alors là, « Oh, il se rebiffe !» Il n'accepte plus. Précepte négatif. Tout éducateur sait ça. Précepte négatif, c'est là, vraiment, l'obstacle, le mur qu'on voudrait franchir du fait même qu'il y a un précepte négatif qui l'empêche de franchir. Vous savez, il suffit de mettre interdit de passer pour qu'on ait envie de passer. C'est comme ça, enfin, nous sommes tous comme ça, quoi. Parce que c'est mis interdit de passer, on veut passer. Parce qu'on se dit, il doit y avoir quelque chose là derrière. Alors notre curiosité s'éveille. Et on veut à tout prix le faire. Et on le fera, du reste. À tel moment. En choisissant bien son moment. Quand les gendarmes dorment. C'est curieux que du fait que c'est négatif, ça nous séduit. C'est très très important, ça. C'est très très important. Ça fait comprendre toute la philosophie contemporaine. Ça a mis du temps. Le venin a mis du temps à pénétrer. Mais le venin pénètre aujourd'hui. D'une manière éclatante. La modernité au plan philosophique. Je me suis interrogé depuis très très longtemps là-dessus. Et là, je vous donne le fruit de la recherche. Parce que ça m'intéresse. Pour comprendre la philosophie contemporaine. La modernité, c'est le primat de la négation sur l'affirmation. Et ça a commencé au XIVe siècle. Et aujourd'hui, avec Sartre, ça se dit ouvertement. Ce qui est le plus intéressant dans l'être et le néant, je ne vous dis pas de lire, mais peut-être que ça vous ferait comprendre cette tentation. Parce que ça dit tout ce que les autres disent pas. Et l'avantage de Sartre, il n'a aucune pudeur intellectuelle. Mais aucune. L'autre, c'est l'enfer. Enfin, c'est agréable. Intellectuelle de dire ça. Heureusement, tu es un peu loin de moi, alors je peux encore te supporter, mais si je suis tout près de toi, oh là 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 là, c'est l'enfer. Pourquoi l'autre, c'est l'enfer? Parce que la négation est avant l'affirmation. Et ça a tellement bien pris que quand j'interroge des jeunes, et je le fais de temps en temps exprès, ça m'intéresse. Dans une retraite, je faisais une petite cour de philosophie à des terminales. Je montrais que la haine présuppose l'amour. On ne haït que quand on a aimé. On ne haït jamais en premier lieu. On est indifférent. Alors une main se lève. C'était une jeune fille, une étudiante, 18 ans. Ah non, père, non, non. Non, non, la haine est première. Moi, je ne peux aimer qu'à partir de la haine. Ça, c'est le fruit de la modernité. On va vers une génération comme ça. Parce que depuis le XVIe siècle, depuis le XIVe siècle, chez les théologiens, ça a commencé. Et vous voyez, c'est intéressant, parce que la tentation commence par la négation. Faut essayer de comprendre ces choses-là, ça éclaire énormément. Sur des cas de choses qu'on comprend pas autrement. On voit pas pourquoi on a eu plaisir de mettre la négation avant l'affirmation. Chez les Grecs, chez les Sémites, l'affirmation est avant la négation. Et notre langage le montre bien. Ceci est, ceci n'est pas. La négation vient s'ajouter à l'affirmation. Et l'affirmation est première. Alors, des théologiens ont regardé l'ordre génétique comme identique à l'ordre de perfection. Et dans l'ordre génétique, la tentation commence par la négation. C'est extraordinaire. Et les théologiens ont dit la négation est avant l'affirmation. Et notre philosophie contemporaine a comme grand-père les théologiens, il ne faut pas l'oublier. Notre Europe, au point de vue culture, s'enracine dans le christianisme. Tout l'art du Moyen-Âge. les trésors de l'Europe. Ces chrétiens, on ne veut pas le reconnaître. On veut le nier. D'où la négation est première. Pour pouvoir faire quelque chose de neuf. Autrement, on ne fera jamais quelque chose de neuf. Mallarmé dit ouvertement, comme poète, qu'il faut d'abord tout nier avant de créer. Et Claudel, qui pourtant a du bon sens, a dit à Fribourg, j'ai entendu de mes propres oreilles, qu'il ne dépendait de personne. Avant. Dire que je ne dépends de personne, c'est négatif. Comme si son inspiration ne provenait pas de tout ce qu'il avait reçu. Tout ce que nous avons reçu de nos parents, de nos grands-parents, de maintenant, tout ce que nous recevons. Ah non, il faut couper. C'est très intéressant, ça. Ève répond en rétablissant l'ordre de la sagesse de Dieu. On peut manger, elle affirme d'abord. Et le démon nie d'abord. C'est ça que je crois qu'il faut saisir. C'est que le démon, toujours, il inverse. Toujours. Il inverse l'ordre de la sagesse de Dieu. Il ne crée rien de nouveau. Et il est celui qui imite en inversant. Le point de vue de l'amour et le point de vue de l'intelligence. Et il veut que l'homme commence par nier. Pour que l'homme se détruise lui-même. Si la haine est première, l'homme forcément se détruira. Ce sera le suicide. Tôt ou tard. Ça ne peut pas être autrement. On ne s'aime plus. On se hait. Alors on se supporte un certain temps et au bout d'un an. Et tout ça provient de cette première tentation. La négation est première. Je vous dis, c'est quand même extraordinaire de voir comment le démon inverse tout. Donc, Ève est saine. Elle rétablit l'ordre en face du démon. Quand le démon veut que l'indication soit première, elle ne dit pas du tout. C'est pas ça du tout. Tu n'y comprends rien du tout. Nous pouvons manger du fruit des arbres du jardin. Et du fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin. Dieu a dit, vous n'en mangerez pas. Et vous n'y toucherez pas. Sinon vous mourrez. Dieu éduque. Et Dieu veut éduquer. Pour que l'homme et la femme grandissent. Dans la foi et l'espérance et l'amour. Le serpent dit à la femme, pas du tout. Vous ne mourrez pas. Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et vous serez des dieux, connaissant le bien et le mal. Alors la force de renverser complètement le commandement de Dieu et de leur faire comprendre que Dieu donne le commandement négatif parce qu'il veut dominer sur l'homme et la femme par l'obéissance. Et que tu as peur de l'homme et de la femme qu'ils puissent s'exalter et grandir. Et par peur, on les tient en prison. Dépendance est une aliénation. voilà le venin qu'on voit aujourd'hui proclamé. Ça a mis du temps, c'est bien évident, on comprend très bien. Mais là, c'est affirmé. Et s'affirmer avec force. Parce qu'il n'y a plus que la force de séduction. Et la force de séduction, elle est très nette. Pas du tout, vous ne mourrez pas. Donc, n'ayez pas peur. C'est pas la question. N'ayez pas peur. Vous ne mourrez pas. Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront. Et vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. Dieu, c'est celui qui est au-dessus de la division du bien et du mal. Et vous serez comme Dieu, et c'est vous qui serez la mesure du bien et du mal. Et donc, il n'y aura plus jamais de précepte négatif. Vous ferez ce que vous voudrez. Plaidoyer d'une liberté absolue. De la liberté. Avant l'amour. Dieu plaide l'obéissance pour que l'homme aime. Il lie l'amour et l'obéissance. Et c'est par l'obéissance que je remonte à l'amour, à la source. Le démon plaide le primat de la liberté. Vous serez comme des dieux, le libéralisme absolu. Il n'y a plus aucune détermination du bien et du mal, objectivement. Vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. Donc, il promet la même promesse que Dieu. Adam et Ève sont créés à l'image et à la ressemblance de Dieu. Ils sont créés pour être semblables à Dieu. Mais par deux voies différentes. Celle de Dieu, et celle du serpent. Vous serez comme des dieux. Donc, vous serez parfaitement vous-même grâce à votre intelligence qui pourra déterminer le bien et le mal. Donc, exaltation de l'intelligence. Alors que Dieu donne la voie étroite par l'obéissance. C'est l'obéissance qui me manifeste à moi-même que j'aime. Quand je doute si j'aime Dieu ou si j'aime pas Dieu, est-ce que j'obéis? Si j'obéis, j'aime Dieu. Parce que je ne peux pas vivre sans amour. Si vous m'aimez, vous observez mes commandements. C'est dans Saint Jean. Et c'est Jésus qui dit ça. Si vous m'aimez, vous observez mes commandements. Vous voyez comme les deux voies sont tout de suite tracés à l'intérieur de cette tentation. Et ceci, c'est révélé. Donc, c'est important de comprendre ça d'une manière pratique. Il y a la finalité qui me conduit à la vérité par l'obéissance, qui me conduit à l'amour par l'obéissance. Et il y a la découverte de la liberté absolue de sa propre exaltation, ce primat de l'intelligence qui conduit à prendre la place de Dieu. Vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. Alors, il doit y avoir là un petit moment d'arrêt. Il faut que ça puisse se digérer, une parole comme ça, hein. S'assimiler. On voit bien. La femme vit que l'arbre était bon à manger. Qu'il était agréable aux yeux, séduction. Et qu'il était, cet arbre, désirable pour acquérir l'intelligence. Voilà la manière dont elle a digéré la parole du démon. C'est intéressant. Ad modum recipientis. C'est intéressant de voir comment elle a fait sienne cette tentation. Comment elle l'a vécue, le vit. est là. La femme vit que l'arbre était bon à manger. Jusque-là, pas de curiosité, puisque Dieu avait dit qu'on ne peut pas l'utiliser. Donc on ne le regardait pas. Maintenant, on dit qu'il faut le regarder, parce que c'est un arbre extraordinaire, qui permet l'immortalité, qui promet l'immortalité, qui réalise l'immortalité, qui réalise la béatitude, être comme des dieux, connaissant le bien et le mal. L'arbre vit, la femme vit que l'arbre était bon à manger, qu'il était agréable aux yeux. Dès qu'on le regarde un tout petit peu, la séduction pénètre, qu'il était cet arbre désirable. C'est l'intelligence qui devient le bien suprême, qui devient l'idole. Elle prit son fruit et mangea. Elle en donna aussitôt à son mari, qui était avec elle, et il mangea. Vous voyez comment donner à l'homme pour être celle qui doit coopérer avec lui en vue de l'amour de Dieu et en s'aimant. La femme qui se laisse séduire par le démon. Saint Paul dira que Ève a été séduite, séducta est. Elle a été séduite. Immédiatement, elle devient l'instrument de séduction pour Adam. Ça ne tarde pas. C'est pas étonnant. Parce que elle se sépare de Dieu en désobéissant, en commettant cet acte d'orgueil, en voulant à tout prix cette expérience de cet arbre, de ce fruit. Elle vit dans cette expérience d'exaltation contre Dieu, en sept contrats contre Dieu. Elle ne peut pas rester seule, ce serait être isolée, puisqu'elle est coupée de Dieu. Donc elle entraîne l'homme. Il n'y a aucune résistance, hein, selon l'écriture. Ça s'est fait extrêmement gentiment. Petite scène de ménage, très très gentille, rien du tout. Tout ça nous apprend certaines choses, hein. On dérigole plus vite qu'on ne monte. Ça c'est sûr. C'est difficile de monter, dérigole très vite. La femme tombe, l'homme tombe. C'est aussi très intéressant pour montrer la fragilité de l'homme. Tout de suite, papa, refuser. Dieu n'a pas prononcé de concept négatif par rapport à la femme. Il n'a pas dit, quand ta femme te présentera un fruit défendu, tu n'en vas pas. Non, tu as laissé là l'homme libre. Il aime son épouse, os de mes os, chair de ma chair. Alors quand on aime vraiment, on cherche le bien de l'autre. Et si l'autre pêche, si l'autre tombe dans l'orgueil, si l'autre s'oppose à Dieu, on essaie de lui montrer sa faute et on ne pêche pas avec lui. Ce n'est pas un véritable amour, ça. C'est l'amour de délectation et non pas le véritable amour, aimer l'autre. Et l'homme est sans défense, il se laisse prendre au jeu. Alors, leurs yeux s'ouvrirent à tous deux, et ils connurent qu'ils étaient nus. Et cousant des feuilles de figuier, ils se virent des pagnes. conséquence du péché, de l'orgueil, ou de la faiblesse, ou la coopération dans l'orgueil qui peut se faire par faiblesse. C'est le repliement sur soi. C'est savoir sa nudité. C'est de se considérer en premier lieu et ne plus aimer l'autre. Ils voient leur nudité, c'est-à-dire leur incapacité d'être comme Dieu, connaître le bien et le mal. Ils sont enfermés en eux-mêmes, dans leur propre désobéissance. Mettez tout de suite en parallèle comme ont fait les pères de l'Église. Cette première tentation est l'Annonciation. L'Annonciation est une épreuve. C'est Dieu qui demande à Marie quelque chose qui dépasse complètement ses capacités, mais totalement ses capacités. C'est ça l'épreuve. C'est quand Dieu nous demande quelque chose qui dépasse complètement nos capacités. Alors on est éprouvé, parce qu'on sait très bien qu'on ne fera pas bien la chose. Voyez, tentation, épreuve. Dans un ordre de sagesse, c'est merveilleux de voir ça. La nouvelle Ève, Marie, qui, elle, devant quelque chose de positif de la part de l'ange, ne nie pas, mais pose le comment. Comment cela pourra-t-il se faire? Je ne connais point d'homme. Là, alors que le texte dit qu'elle est fiancée. Mais ces petites contradictions apparentes, c'est parce que l'Église nous l'a dit. Elle est totalement consacrée à Dieu. Ayant rencontré Joseph, Joseph a compris Marie. Et donc Marie reste totalement consacrée à Dieu. Comment cela peut-il se faire? Je ne connais point d'homme. C'est la foi qui veut obéir jusqu'au bout et qui, ne voyant pas, demande une explication.